Wasiye, ninkurani dine masuro. Ninkurani yorobe kera kera, wasiye. Nimusoni yorobe kera kera, wasiye.
Bon, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Aujourd'hui, nous allons entièrement consacrer cette émission à l'immeuble du 59-61 de la rue Charles-Michel à Saint-Denis. Et nous sommes pour ce faire avec Meïté. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Traoré.
Bonjour.
Et Monsieur Diamandé, qui sont occupants de l'immeuble.
Bonjour.
Voilà, donc déjà, donc, petit rappel quand même, hein, c'est un immeuble qui est classé au patrimoine des monuments historiques et qui était occupé depuis 2000 par ses occupants actuels et qui a subi il y a un mois maintenant un dramatique incendie qui a fait un mort, deux blessés graves et où beaucoup de gens ont perdu énormément de choses. Peut-être on peut commencer par faire un petit historique de cet immeuble qui est un immeuble très intéressant depuis plus d'un siècle déjà.
Effectivement, cet immeuble a été construit en 1878 par l'architecte Émile Cohen, dont ça a été classé patrimoine de la ville de Saint-Denis parce que c'est le premier bâtiment construit en béton sur la ville de Saint-Denis.
Ouais, en fait, le premier bâtiment, surtout bâtiment qu'on appelle bâtiment ouvrier, quoi. Hein,
tout à fait, oui. Ouvrier. Tout à fait, oui.
Voilà, donc, et après de multiples péripéties, cet immeuble est occupé par les habitants actuels.
Tout à fait. Cet immeuble a été occupé en 2001. Par les occupants actuels, et dont il y avait des négociations avec la mairie pour pouvoir quand même absorber cet immeuble dont ça fait à peu près 300 personnes, y compris les enfants. Donc, et malheureusement, le 26 avril, il y a eu un incendie dramatique qui a fait un mort et deux blessés graves. Et donc, il y avait un projet effectivement entre la ville et les habitants qui concernaient à faire la rénovation de cet immeuble pour 5 ans et dont les sans-papiers ne seront pas laissés de côté parce que la ville s'était engagée à soutenir leur dossier de régularisation qu'au bout de 5 ans, et tout le monde aura ses papiers et tout le monde aura un logement.
Mais avant donc là, on anticipe un petit peu sur le déroulement de l'émission. C'est-à-dire que qui sont les gens déjà qui occupent et qui habitent dans cet immeuble-là? Parce qu'il y a des gens qui sont avec papier, des gens qui sont sans papier, beaucoup de nationalités, y compris beaucoup de Français d'ailleurs.
Effectivement, sur cet immeuble, bon, vous avez différentes nationalités qui habitent là, à savoir Ivoiriens, Maliens, Français, des gens de l'Est, un peu de tout. Voilà. Et nous formons ensemble une belle famille, une très belle mais entre nous, et le côté réjouissant de sur cet immeuble, c'est que sans papier ou avec papier, mais bon, déjà le mot il est trop gros pour nous, mais ce qui est sûr, que tu sois sans papier ou papier, bon, nous contribuons tous, voilà, aux différentes charges. Et voilà, à savoir la facture d'électricité de Veolia et la taxe d'habitation, et que nous payons tous sur l'immeuble, même les sans-papiers.
Voilà, et donc tout le monde est reconnu, tout le monde a son titre d'occupants, on appelle ça son titre de logement.
Voilà, effectivement, depuis un certain moment, nous avons demandé à la ville que nous soit attribué ou sinon délivré des attestations du résident. Bon, et chose acquise par M. le maire, M. Didier Payard. Et aujourd'hui, nous sommes considérés, enfin, nous sommes les occupants, en un mot. Et en même temps, il y a parmi nous beaucoup de personnes et qui ont déjà fait des demandes de logement, mais bon, et qui n'ont jamais d'ailleurs abouti.
Ouais, c'est comme partout, une demande de logement, d'abord pour qu'on puisse imaginer qu'elle aboutisse, il faut être en situation régulière, et puis il faut attendre parfois des années et des années. On connaît bien le problème de la crise du logement. Et il y a donc des gens avec papier, des gens sans papier, des célibataires, des familles, des gens qui travaillent.
Oui, effectivement, il y a des familles, sinon des gens en situation irrégulière qui travaillent et qui ont même des contrats en CDI, mm-hmm. voilà, ou voilà, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est sûr, les gens travaillent sur l'immeuble aujourd'hui. Bon, peut-être que sur les 300 personnes, vous allez trouver peut-être que, et même pas une dizaine qui ne travaillent pas. Tout le monde travaille à peu près.
Voilà, donc c'est finalement un immeuble qui devrait être un immeuble à peu près normal, si ce n'est des conditions qui sont particulières et qu'il y a quelque chose de plus où il y a une immense solidarité à l'intérieur de l'immeuble.
Exactement, la solidarité qui mène aujourd'hui, c'est ça notre force d'ailleurs, sur cet immeuble. Voilà, même si aujourd'hui nous avons quelques difficultés par le biais du malheur qui a surgi le 26 avril, mais nous restons toujours solidaires entre nous, les uns et les autres, les enfants, les femmes. Bah, la solidarité règne à fond.
D'ailleurs, on racontera tout à l'heure comment ça se passe, cette solidarité. Et c'est une lutte qui n'a pas commencé après le 26 avril, bien sûr.
Bien avant.
Bien avant, hein, puisque depuis plus de 5 ans, je crois. Donc la mairie aussi a soutenu les demandes de régularisation et fait quand même, atteste l'hébergement des gens qui sont là.
Oui, effectivement, sur l'immeuble, il y a eu, entre nous et la mairie, vraiment un contact permanent. Mm-hmm. Voilà, à savoir, chaque fois on se réunissait pour des réunions, pour des compréhensions sur le sort des habitants sur l'immeuble. Et partant de là, il y a eu un projet qui a été mis en place par la force des choses, parce que la première réunion, je m'en souviens, la mairie voudrait en ce moment-là juste prendre les quelques régularisés à cette époque et jeter tous les sans-papiers. Alors, on a pu faire bloc. Voilà, moi j'ai rejeté l'idée de la mairie et qui a abouti aujourd'hui à un projet. Voilà, qui a abouti à un projet de relogement et d'accompagnement social pour les sans-papiers et les non-relogés. Quoi.
Oui, voilà, juste pour avoir une précision, parce que cet immeuble, je n'ai pas bien compris si c'est un squat ou bien comment vous êtes arrivé dans cet immeuble. C'est-à-dire, vous avez déjà fait une première lutte pour obtenir l'attestation de la mairie. Vous êtes arrivé de manière illégale, je suppose, dans cet immeuble. Je ne sais pas. Je cherche à savoir. Et après, vous avez mené une lutte pour que la mairie vous délivre déjà une attestation.
De toute façon, en matière de relogement, en matière d'habitation, moi, je dirais qu'il n'y a pas d'illégalité parce que toute personne a droit à un logement digne de son nom.
Ça, c'est sûr, mais voilà. Est-ce que vous avez forcé la porte, est-ce que c'est la mairie qui vous a mis dedans?
Et nous n'avons pas forcé de porte. Elle était ouverte, la porte. Voilà, et pour ne pas rester dans la rue, mm-hmm. voilà.
Je ne remets pas en cause la légitimité.
On s'y introduit là-dedans, on s'y introduit là-dedans et pour enfin un local. Mm-hmm. Voilà, et aujourd'hui, bon, nous sommes fiers de vivre là-dedans. En tant que bon citoyen d'ailleurs, pourquoi nous payons toutes les charges qui sont attribuées à ce immeuble, à savoir les factures Veolia, électricité et les taxes d'habitation. Voilà, moi qui vous parle, je viens de payer pour moi il n'y a même pas encore 8 jours. Mm-hmm.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est la mairie, elle s'est saisie de ce problème et elle a dit, bon, bah, finalement, on va légaliser votre situation, on vous délivre une attestation de, je ne sais pas comment vous avez dit.
De toute façon, quelque part, la mairie, elle n'avait pas le choix. Du moment que les gens sont là-dedans, il y a des lois, il y a des lois, il y a des droits, il y a des devoirs. Et la mairie n'a fait qu'un devoir. Moi, je considère vis-à-vis de notre situation. Et par la suite, il y a eu une belle organisation de notre part et vis-à-vis de la mairie et qui a abouti aujourd'hui à l'obtention des attestations de résidents et bien d'autres. Quoi.
Voilà, parce que ça, c'est une première lutte, parce que vous dites qu'elle n'a fait que son devoir, malheureusement. Il y a beaucoup de mairies qui n'agissent pas du tout comme ça, c'est-à-dire qui font venir la police pour expulser les gens, ou qui ne se saisissent pas du tout ce problème, qui laissent faire. Et puis finalement, ça arrive à des situations où on a... Parce que vous aussi, on en parlera peut-être après, l'immeuble, il n'est pas non plus aux normes. C'est aussi, ça arrive à des situations où il y a des incendies, donc voilà, c'était le cas pour vous. Et puis, vous dites que c'est son devoir, on est d'accord, ça se passe souvent pas comme ça.
Oui, ça c'est vrai, et quelque part, il faut, d'ailleurs c'est ce que nous réclamons aujourd'hui, il faut considérer la chose à titre humanitaire. Voilà, parce que voir des humains dans la rue, et qui remplissent, on demande aujourd'hui de s'intégrer. Et des gens qui cherchent véritablement à s'intégrer dans la République française, je crois qu'à ceux-là, il faut donner des chances. Et je crois que peut-être que quelque part, la mairie a dû jouer là-dessus, pour pouvoir donner des chances.
Je dirais même, pas donner des chances, mais il y a des chances qu'il ne faut pas retirer à des gens que normalement on a
évidemment,
je crois que c'est pas donner des chances, mais des chances qu'il ne faut pas retirer.
Il faut pas retirer ces chances là parce que en retirant, peut-être que vous les obligez encore quelque part, peut-être à retourner dans d'autres mauvaises situations et que involontaire d'ailleurs. C'est ça, il faut quand même le préciser. Et aujourd'hui, la lutte continue entre la mairie, les habitants et la préfecture par la suite de l'incendie.
Voilà, mais peut-être après avoir écouté un petit morceau, parce que c'est beaucoup de mamans et de familles qui sont là, donc après avoir écouté Samba avec les Amazones de Guinée, peut-être on reviendra sur justement cette lutte et les conditions de cette lutte.
Yeah.
l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Et nous sommes avec M. Meïté, Traoré et Diomondé, où nous parlons de l'immeuble du 59-61 de la rue Charles-Michel. Donc on parlait des problèmes d'insalubrité de cet immeuble. Et donc c'est un immeuble qui était abandonné, je crois, depuis les années 90, hein, qui a subi deux vagues d'occupants. On en parlait tout à l'heure, et qui posait des problèmes d'insalubrité particuliers, je crois notamment au niveau du saturnisme, hein, qui atteint les enfants, et au niveau des installations électriques, ce qui était très grave. Donc il y avait avant l'incendie un système qui était assez astucieux, je crois, pour trouver des solutions de relogement.
Donc, effectivement, il y avait un projet qui était entre nous, les occupants, et la ville, qui concernait à rénover cet immeuble, puisqu'on l'a dit dès le début que cet immeuble a été classé monument historique de la ville. Donc, c'est un immeuble qui ne doit pas être détruit. Donc, il y a eu un projet qui a été signé entre les habitants et la ville, qui comportait à faire évacuer une cage d'escalier, parce qu'on a trois cages d'escalier. Et sur ce cache d'escalier qui va être évacué, il y a 29 logements qui sont construits juste en face. Donc 29 familles peuvent intégrer ce nouveau bâtiment pour pouvoir rénover la cage d'escalier qui sera vidée. Mais par contre, comme cet immeuble appartient à l'État, et l'État ne veut pas toutefois héberger des sans-papiers. Donc la ville, étant propriétaire de son immeuble, a décidé, bon voilà, si on évacue une cage d'escalier et qu'il y a des sans-papiers dedans, et par contre, les 29 familles qui ne pourront pas être tous trouver au bâtiment A, supposons, donc ils étaient obligés d'aller chercher le complément des 29 familles dans les deux autres cages d'escalier. Donc les sans-papiers de la cage qui doit être rénovée iront dans ces logements que leurs personnes sont en situation régulière, mmh, afin de rénover la première cage d'escalier. Et au fur et à mesure, les deux autres aussi se passeront comme ça. En attendant, les sans-papiers resteront dedans avant qu'ils soient régularisés.
Oui, et sur ce point, effectivement, d'opération tiroir qu'ils appellent, mais bon, c'est assez complexe, c'est assez compliqué, parce que déjà, il y a 29 logements pour dérégulariser. Bon, je prends l'exemple sur le bâtiment A. Ils prennent une cage d'escalier. Voilà. Bon, on considère que sur une cage d'escalier, il y a 20 personnes. Voilà. Bon, ou 30 personnes, je dirais. Bon, ils prennent 29 là-dedans et régularisés. Et si parmi ces 29-là, tout le monde n'est pas régularisé, ils allaient en prendre soit sur le B et le C pour les envoyer, pour les loger provisoirement dans le nouveau bâtiment d'Adoma. Mais bon, la question qu'on se posait, et ceux qui allaient rester, où eux, ils allaient partir. Mais bon, ça a été dit une fois à une réunion, ceux-là, ils vont aller sur les bâtiments B et C, à la place de ceux qui ont été pris là-bas en situation régulière pour rejoindre les 29 du bâtiment Adoma. Mais bon, c'est sur ces projets-là que nous sommes restés, voilà, en attendant ce projet qui devait démarrer d'ailleurs en septembre, parce que la fin de la construction des travaux de ce bâtiment était prévue pour septembre. Et sauf qu'à cause de l'incendie aujourd'hui, ben bon, il y a eu un forcing de la part de la préfecture qui a pu décaler un peu sur la finition pour la mi-août, c'est-à-dire le 15 août. Mmh. Donc, effectivement, bien avant cela, l'insalubrité, bon, on le dit, c'est clair, hein, que ça soit déjà au niveau de l'alimentation d'eau, bon, vraiment, on n'a qu'un seul point d'eau, bon, sur lequel, bon, les 300 personnes...
Qu'un seul point d'eau, mais depuis...
Oui, dans la cour, voilà. Dans la cour, mais ça, ce point d'eau a été créé par la suite aussi d'un incendie. Et nous avons eu, bon, par la suite du deuxième incendie, un compteur, je dirais quoi, un compteur électrique qu'on exploitait en collectivité. Tout est exploité quoi, en collectivité.
Voilà, mais le point d'eau, c'était un point d'eau pour tout l'immeuble. Il n'y a pas de robinet dans les étages.
Non, que dalle, il n'y avait rien. C'est un point d'eau pour tout l'immeuble, c'est-à-dire les 300 personnes. Et là, bon, ceux qui habitent plus loin, c'est-à-dire au 5e ou 4e, ont été obligés de se procurer des tuyaux branchés pour que l'eau puisse avoir accès à l'immeuble, quoi. Bon, et ce qui nous a beaucoup sauvés déjà au cours de cet incendie-là. Parce que bien avant l'arrivée des pompiers, bon, on a pu quand même nous-mêmes brancher l'eau pour pouvoir faire face au feu dans un premier temps. Et l'électricité aussi, c'est pareil. Bon, c'est les gens qui ont l'habitude d'installer sur les chantiers, appelés en tarif jaune. Bon, et qu'on payait aussi en collectivité. Parce qu'aucun n'a un compteur individuel. Non, il n'en avait pas. Donc, et tous les fins du mois, il faut faire le porte-à-porte, du porte-à-porte pour demander l'argent à tout le monde. 70 euros par appartement, à savoir 30 euros pour l'EDF et 40 euros pour Veolia, c'est-à-dire l'eau.
Ok.
Bon, et la dernière facture, bien avant l'incendie, c'était le jeudi.
24.
Voilà, jeudi 24. Bon, on a été réglé à une facture de 5 760 euros.
D'accord.
Voilà. Et bon, si comme ça nous étions organisés, mais bon, il y a de l'insuffisance, mais bon, et qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est comme ça nous vivons.
Oui, ben. Là j'apprends, ça c'est une chose que j'ignorais.
D'accord.
Voilà. Et donc, intervient donc cet incendie, donc le mois dernier. Qui a fait un mort, deux blessés graves. Alors, les deux blessés, déjà, je vais peut-être vous demander tout de suite de leurs nouvelles, parce que la dernière fois qu'on en avait parlé, il y en avait un qui était encore dans le coma.
Oui, et Dieu merci d'ailleurs, M. Kone Moulay a retrouvé, progressivement en train de retrouver la santé, parce qu'il a été libéré déjà de l'hôpital. Mais bon, quand même, il reste toujours un malade grave. Voilà, parce qu'il a du mal à parler, à sortir la parole. Bon, ce qui est, je suis très affaibli, hein, physiquement, bon, et même moralement, je dirais. Ben bon, le deuxième, lui, il se trouve en ce moment dans un centre de repos. Voilà, et donc, voilà. Voilà, voici déjà les avancées de nos malades.
Voilà, et donc sinon, il y a eu, je répète, ça fait un mort. Et donc ça, c'est une grande catastrophe, parce que en plus, tout là où ça a brûlé, tout est perdu.
Bah, effectivement, tout a brûlé, bon, tout est perdu, mais bon, on considère l'humain qui a été perdu d'abord, en premier lieu. Parce qu'au moins, nous, aujourd'hui, on a, moi qui vous parle, j'ai tout perdu dans le dit incendie, même une aiguille, je n'ai pas pu récupérer. Mais quand même, je m'en réjouis, parce que je suis en vie, avec ma famille. Ça, déjà, c'est un point à considérer. Bon, pour tout le reste, mais bon, on a tout perdu, quoi.
Voilà. Et donc, les enfants continuent à aller à l'école et...
Oui, ils continuent à aller à l'école, nos enfants, mais très difficilement, parce qu'ils sont toujours marqués par la flamme. Voilà, ils n'arrêtent pas d'en parler. Même ce matin... Il y a un père qui posait la question à son fils, où est ta maison? Et bah, dans le feu. Et bon, où dort maman? Dans la cabane. Mais bon, dans les tentes, il veut dire le gamin. Mais bon, les enfants, ils sont psychologiquement, ils sont touchés. Et moi-même surtout. Et aujourd'hui, tu peux pas faire un bruit à côté sans que je... Voilà, parce que dès que j'attends un coup dur, mais bon, je saute, quoi. Pour moi, bon. Peut-être qu'il y a une répétition. Mais bon, ben, on y arrive quand même à gérer la situation moralement.
Et est-ce qu'il y a eu mis en place par la préfecture ou par la mairie un soutien psychologique pour... un soutien...
Bon, soutien matériel par la préfecture, je dirais non. psychologique, je dirais non. Voilà, il y a eu un psychologue qui est passé venant de la mairie, voilà, très rapidement, mais bon, et même pas les, nos soutiens, c'est-à-dire nos associations qui nous soutiennent, qui n'ont même pas, qui n'ont pas du tout apprécié le concours de ce dernier, parce que pour eux, ils n'ont rien vu de bon, quoi, en tant qu'un psychologue.
Voilà. Et donc, il y a quand même... Quand on... Et
matériellement, voilà, matériellement, je reviens là-dessus. Mais bon, il n'y a aucune question qui est posée là-dessus, ni de la part de la préfecture, ni également de la part de la ville.
De la part de la ville, oui.
Bah oui, des dommages, on n'en parle jamais, quoi. Mm-hmm. On ne sait pas comment les gens vont être dédommagés, tout ça. Mais bon, c'est une question aussi qu'il ne faut pas ignorer.
Oui, parce...
Moi, je voulais aussi demander par rapport au monsieur qui a été gravement brûlé et qui est sorti de l'hôpital. Est-ce que la mairie a mis en place une procédure de relogement rapide pour ce monsieur-là, quoi, qui est quand même qui demande des soins particuliers, on imagine.
Ben, pour ce dernier, ben, je dirais non. C'est nous qui avons fait la démarche auprès de la mairie. Bon, et en fin de compte, il se retrouve aujourd'hui dans un hôtel, quoi. En attendant un relogement.
Voilà, parce que sinon, maintenant, donc, tout l'immeuble campe dans la cour.
Oui, tout le monde campe dans la cour.
Voilà, je crois qu'il y a différentes associations, justement, le DAL, et, qui ont apporté des tentes, des matelas, des couvertures.
Oui, le DAL nous a apporté beaucoup. Et, non, je dirais aussi pour loger.
Ouais.
Voilà, l'association pour loger nous a apporté vraiment beaucoup, et, à savoir les bâches.
Ouais.
Et grâce à ces bâches-là aujourd'hui, bon, que nous sommes un peu à l'abri de la flotte. Et la mairie aussi nous a apporté au niveau tente, malgré qu'elle nous dit aujourd'hui d'évacuer tout le monde sur l'immeuble, mais elle nous a apporté quand même beaucoup au plan des vues tentes. On en a reçu au moins une vingtaine, 25 tentes, hein, de la part de la mairie. Bon, et puis d'autres associations également.
Voilà. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu comment se passe... Comment est la cour de l'immeuble ? Parce que c'est tout à fait surprenant quand on arrive.
Ben, la cour de l'immeuble, je dirais quoi ? Elle s'étend sur combien de mètres carrés à peu près ? Je dirais...
8 sur 5.
En longueur, 8 mètres, je dirais. 8 à 9 mètres, ou même 10 mètres, je dirais. Hein. Bon, sur une largeur de 6 mètres à environ.
Oui, et donc il y a une bâche.
Il y a une bâche qui couvre le haut.
L'ensemble de la cour.
Voilà.
Hein, et sous la bâche, il y a les tentes qui sont alignées.
Voilà, c'est ça. Et sous la bâche, bon, on a des milliers de tentes, quoi.
Voilà, et donc c'est...
Et dans lesquelles, bon, dorment nos enfants et nos femmes, bon, et nous-mêmes également. Et il ne faut pas remuer les tentes la nuit, hein, sinon... il y a des questions qui se posent.
Oui, oui, c'est les tentes, quoi.
C'est les tentes.
Voilà, et donc tout le monde vit, et par solidarité, toute une partie des habitants de l'immeuble ont décidé de descendre.
Oui, voilà, que ce soit les habitants du BIC, du bâtiment BIC, tout le monde se retrouve là la nuit. Voilà, bon, peut-être ceux qui n'en ont pas, parce qu'on étale les tentes jusqu'à la porte d'entrée, jusqu'à la rentrée, quoi, de l'immeuble, la nuit. Bon, sûrement, il n'y a personne, bon, pour avoir un peu de place de plus, quoi. Voilà, et ça se passe bien. Et nos femmes, de façon bien organisée, voilà, elles préparent dans la cour. Bon, nous, on finance, voilà, la nourriture, et puis bon, depuis un mois maintenant, voilà.
Voilà,
depuis un mois, un jour, aujourd'hui.
Et depuis cet incendie, donc, le protocole, le système de relogement ne fonctionne plus comme il aurait dû fonctionner.
Du coup, ça a dû déclencher autre méthode, tu vois, ça, autre méthode de relogement, parce qu'on parle d'urgence, il faut héberger les gens d'urgence. Voilà, les sinistrés, il faut rapidement héberger les gens, bon, de façon peut-être, je dirais, pérenne ou, voilà, c'est sur ce, d'ailleurs, il y a les questions. Mmh. Voilà, il y a les questions parce que dans le protocole, il est dit que l'hébergement doit convenir, doit être convenablement répondre aux critères de vie familiale.
Voilà. Donc et ça c'est et on avait trouvé donc un système qui était relativement astucieux et qui passait avec l'opération tiroir. Et ça a été quand même pas mal remis en question. Donc maintenant, il y a des négociations très dures entre vous, entre les occupants de l'immeuble, la mairie et la sous-préfecture à Saint-Denis. Mmh. Et là, il y a des choses qui ont été donc quand même tout à fait remises en cause par rapport au premier mode de...
Oui, bon, dans l'urgence, déjà, la mairie préfère déjà que tout l'immeuble soit, tous les habitants soient évacués immédiatement, enfin, d'après le français qui a été écrit dans les journaux ou même en communiqué, parce qu'ils ont fait un communiqué dans le journal parisien, c'est ça. Et du coup, il faut à ce niveau-là, nous, on a fait bloc parce qu'on ne peut pas évacuer la totalité de l'immeuble comme ça dans l'immédiat sans au préalable savoir où nous partons. Voilà, parce que le vrai problème, il est là-bas. Mais bon, aujourd'hui, bon, il y a eu des avancées quand même sur le protocole, sur le dit protocole, et à savoir reloger de façon transitoire les sinistrés d'abord, c'est-à-dire à compter de la cage A, le bâtiment A, et ensuite, bon, les deux autres bâtiments, quoi. Bon, les discussions ont vraiment avancé. Et également, le coût de l'hébergement sera pris en charge par la ville et la préfecture de Saint-Denis, et avec la participation des habitants aussi, de ceux qui sont en situation régulière, de 20% de leurs ressources.
Ok, mais ça, là où les choses ont été remises en question, c'est que ça fonctionne pour les gens qui ont des papiers. Bah, pour les gens qui n'ont pas de papiers.
Bah, le système, voilà, le système en place, c'est ça. Hein, il faut. Mais bon, mais déjà, ils vont prendre tout le monde. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, où iront les sans-papiers dans cette histoire ? Et s'ils iront vraiment dans des hébergements dignes de son nom ou pas ? C'est une question qui reste à poser. Bon, et quel sera le devenir de tous dans toute cette histoire, même ceux qui ont les papiers, parce que il y a des gens qui ont déjà vécu la même situation avant nous. Voilà, je prends l'exemple à l'Opéra, hein, à Paris Opéra, où il y a eu l'incendie, il y a eu 27 morts, mais il a fallu d'abord 90 jours, c'est-à-dire 3 mois, avant que bon, certaines aient une clé de logement. Mais bon, sur ce point d'ailleurs, moi, j'aimerais interpeller aujourd'hui très vivement l'opinion française, c'est-à-dire les autorités compétentes françaises, vraiment de ne pas attendre qu'il y ait d'abord des incendies ou la mort, voilà, avant de faire face aux situations de relogement ou de régularisation. Ça, c'est très très important parce que ça réveille tous les jours que Dieu fait, ça réveille les consciences, quoi. C'est pas bon. Il faut changer la donne.
Et on voit bien comment les problèmes de précarité sont complètement liés aux questions de papier et que le fait de ne pas avoir de papier augmente considérablement le risque précaire, quoi.
C'est, voilà, le risque précaire à tous les niveaux. Même au plan délinquance, voilà, ça ne fait qu'augmenter. Parce que si tout le monde, c'est ce que je disais à une réunion précédente, que tout le monde dans cette vie, dans un premier temps, travaille pour son estomac. Parce qu'une fois l'estomac vide, on est obligé d'aller chercher quelque chose. Même les fous, les manteaux qui sont dans la rue, quand ça ne va pas, ils vont fouiller dans la poubelle. Mm-hmm. Mais bon, peut-être que c'est pas... Même étant fou, bon, peut-être que c'est pas de son goût d'aller chercher la nourriture dans la poubelle, mais bon, et comme il n'y en a pas ailleurs, bah, il est obligé d'y aller là-bas. C'est de même qu'un sans-papier. Un sans-papier qui n'a pas droit au travail, qui n'a pas droit déjà à sa propre dignité vis-à-vis qu'il soit, du fait qu'il soit sans papier. Mais bon, quelque part, bon, on peut obliger des gens involontairement à les faire du n'importe quoi. Mais bon, c'est ça surtout, il faut trouver une bonne politique là-dessus. Et cela est très, très important.
Voilà, et puis là, je fais peut-être une petite digression, mais cette solution d'hébergement me fait penser à la directive retour qui est en train d'être, qui risque d'être votée au mois de juin et qui pourrait, de la façon la plus cynique, trouver la solution d'hébergement. Puisque ça fait passer la durée de rétention de 30 jours, plus 2 jours de garde à vue, à 18 mois. C'est la directive retour. On dira peut-être un petit mot en fin d'émission. Et je propose qu'on nous écoutions maintenant Moriba Koïta, qui est un des immenses joueurs de Ngoni. Thank you. Donc voilà, nous étions avec Moriba Koïta. Et donc, nous êtes toujours sur Singulier au pluriel, sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3. Et nous sommes avec Meïté, Traoré et Diamandé. Et nous parlons donc de tous les problèmes qui ont été soulevés par autour de l'immeuble du 59-61 de la rue Charles-Michel à Saint-Denis, qui est un ancien immeuble qui était occupé, où il y a eu un incendie absolument dramatique. Et donc maintenant, on en est toujours à la négociation entre les différents, c'est-à-dire entre les occupants de l'immeuble, la mairie et la préfecture ou la sous-préfecture de Saint-Denis, pour trouver des solutions de relogement. Des solutions de relogement, donc, au départ, c'était de dispatcher tout le monde aux quatre coins de l'Île-de-France. Et ça, vous l'avez refusé.
Catégoriquement.
Ça, on l'a refusé parce que là, ils avaient proposé 50 places à Vaujeau, 30 places à Maison-Blanche qui est Neuilly-sur-Marne, et puis 30 places aussi sur Cergy-Pontoise, dont on a refusé parce que nous, dès le début, on l'a toujours dit, on est toujours ensemble, donc on ne peut pas se dispatcher aux quatre coins de l'Île-de-France pour n'aboutir à rien, quoi. Donc, nous, notre force, c'est quoi? C'est d'être toujours ensemble et d'être sur le meuble. Parce que c'est à l'immeuble qu'il y a eu l'incendie et la force de nous, ça se trouve à l'immeuble et non ailleurs.
Voilà, absolument. Et il y a des choses sur lesquelles il faut bien insister et qu'il faut bien expliquer parce que certaines personnes ont du mal à comprendre ça. C'est que, d'une part, c'est-à-dire que les gens qui travaillent, qui habitent là, pour la plupart, sont des gens qui travaillent. Si on travaille à Saint-Denis, on est relogé à Cergy-Pontoise, où on a vu le cas avec Cachan, par exemple, de gens qui, après l'évacuation du gymnase, travaillaient à Arcueil ou travaillaient à Cachan et étaient relogés en pleine campagne, à 60 km de là où ils travaillaient, à 60 km de Cachan, dans des zones industrielles où il n'y a pas de transport en commun, en dehors des heures de travail, eh bien, ça ne fonctionne pas. Que en plus, pour des gamins qui ont...
Qui sont scolarisés,
qui ont perdu des repères, les obliger à repartir très loin, c'est terrible. Et il y a une grande nécessité de solidarité, puisque les gens qui ont des papiers, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué, les problèmes de logement pour tout le monde. Mais pour les gens qui n'ont pas de papiers, c'est impossible. Donc on est obligé de faire bloc.
Voilà, ça a été la cause d'ailleurs. Enfin, tout ce que vous venez de dire ont été les facteurs précis pour nous de faire bloc, ne pas bouger, quoi, ne pas aller sur Vaujeau, à Cergy. Parce que déjà, les enfants traumatisés par ce drame-là, tout de suite se retrouvent à Vaujeau ou à Cergy. Pourtant, ils doivent revenir à l'école tous les matins à Saint-Denis. Mais bon, c'était un peu de la cata, quoi. Et même aussi pour nous qui travaillons, pour ceux qui travaillent sur Paris ou ailleurs, et comment il fallait gérer ce nouveau... voilà. Hein, c'était un quotidien vraiment qui revenait difficile, quoi. Bon, c'est ce que nous avons refusé au départ. Et là, on voyait dans les journaux, bon... Et en plus, c'était pas un relogement, c'était un hébergement d'urgence. Voilà, l'hébergement d'urgence, on sait tous qu'est-ce que c'est un hébergement d'urgence. Bon, on vous met là à l'urgence et après. Et pourtant.
Bah après, 3 ou 4 jours après.
Voilà, d'autres se retrouvent dans la rue.
On monte un petit peu sur les copains et puis 3 semaines après, on ouvre un squat. Hein,
voilà.
Parce qu'on n'a pas d'autre solution.
Bah voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc maintenant, les choses achoppent considérablement. Donc on pourrait, si j'ai bien compris, hein, avec l'état actuel du protocole, trouver des solutions et en ravivant enfin, l'opération tiroir, trouver des solutions pour les gens qui ont les papiers et les gens qui n'ont pas de papiers, il n'y a pas de solution.
Ben, les solutions aujourd'hui, c'est les solutions ils s'étalent aujourd'hui sur le dépôt déjà des dossiers sur lesquels nous avons beaucoup exigé, voilà, de tous les sans-papiers, tous ceux qui n'ont pas de papiers. Soit régularisé. Bon, d'après monsieur le sous-préfet ou monsieur le préfet, il faut déjà déposer les dossiers de ceux-là. Et donc, les dossiers vont être traités individuellement. Et bon, et comme ils le disent dans le bon français, au cas par cas. Mais bon, tant mieux déjà. Mais bon, si déjà il aura des études de dossiers, mais bon, ce n'est pas déjà mal, quoi. Mais bon, Toujours est-il que pas d'incendie, pas de traitement de dossier et pas de relogement. Voilà, c'est ce que nous mettons toujours en cause, quoi. C'est ça, il faut travailler là-dessus.
Donc, voilà. En fait, la solution passe d'abord par des papiers pour tous.
Voilà, des papiers pour tous et enfin des relogements. Parce que sans papier, tu n'as pas de travail, tu n'as pas droit au travail, tu n'as pas droit au relogement.
Voilà.
Parce que pour avoir des ressources pour payer le loyer, il faut être en situation régulière. Donc, tout passe pas là d'abord.
Ça veut dire que, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas de régularisation, on ne finirait pas avec ce problème parce qu'une personne qui n'est pas régularisée, il est exposé à tout danger. Soit aller réoccuper encore un autre squat ou se mettre encore plus de précarité dessus. Donc, c'est pour ça que nous exigeons que tout le monde soit régularisé au niveau Charles Michel pour que, effectivement, on puisse en finir avec ce problème-là.
Absolument. Et donc maintenant, il y a, donc ça c'est toujours en négociation, au moment où on écoute cette émission, vous êtes ou vous serez, puisqu'on enregistre un tout petit peu avant la diffusion, il y a maintenant une négociation donc encore à la préfecture et des actions à venir qui sont, sur lesquelles vous réfléchissez et qui sont organisées.
Ah oui, de toute façon, qu'on signe un protocole aujourd'hui ou pas, nous resterons toujours mobiliser vraiment de façon bien organisée, quoi. En tout cas, alors, même si nous sommes éclatés sur les quatre coins, voilà, sur tous les horizons, mais bon, on restera toujours mobilisé jusqu'à ce que nous ayons le gain de cause que nous voulons, à savoir la régularisation de tous et le relogement de tous, c'est-à-dire du premier au dernier régularisé, au premier relogé, au dernier relogé, mais bon, nous allons maintenir toujours la mobilisation.
Voilà, et c'est des mobilisations qui sont difficiles, qui sont longues. Et donc là, concrètement, maintenant, il y a des choses qui sont... Enfin ça, Jezabel en parlera sur l'agenda, puisqu'il va y avoir donc maintenant une discussion à la préfecture, des manifestations qui sont prévues. Je suppose qu'il existe un comité de soutien que l'on peut rejoindre, que l'on peut contacter.
Oui.
Oui. Et comment on le contacte ?
Ben, vous pouvez contacter déjà en passant par le DAL.
Ouais.
Voilà, il y a Edwige du DAL, mais bon, qui peuvent vous orienter sur tout le reste du réseau, quoi.
Ou sinon se présenter directement au 5961 rue Charles Michel, qui est juste derrière la gare de Saint-Denis. Et puis voilà, vous trouverez toujours un délégué sur place et qui vous informera le déroulement des manifestations.
Voilà, donc moi, c'est ce que je propose à chaque fois sur l'émission RESF du mercredi après-midi, c'est de se rendre au 5961 rue Charles Michel. C'est à côté de la gare de Saint-Denis, hein, c'est tout près. Et là ça fait... ça fait toujours du bien de savoir qu'on est soutenu et qu'il y a des gens qui viennent.
Très bien. Et on en profite l'occasion ici que vous nous donnez d'ailleurs de lancer vive appel à tous ceux qui veulent en savoir proprement sur ce problème d'incendie ou de relogement de sans-papiers, tout ce que vous voulez, de se présenter, de venir à nos côtés au 59 61 rue Charles Michel. Ils sont les bienvenus et on pourra leur expliquer réellement, proprement, de façon véridique. Et ce que, bon, et en même temps, ils auront l'occasion eux-mêmes de vivre les faits, de voir ce qui se passe, de voilà. Et donc, on fait appel à tous ceux qui sont de bonne volonté. Voilà. Que ce soit les ministres, les présidents, tout ce que vous voulez, les clochards, tout ce que vous voulez, qu'ils viennent là, venez voir ce qui se passe réellement à Charles Michel. Voilà, qu'ils ne se concentrent pas seulement de journaux, parce que bon, voilà, il faut venir sur place. S'il y a vraiment moyen, il y a besoin, il faut venir. Ils auront la clarification sur la mobilisation des habitants de Charles Michel, les sinistrés de Charles Michel.
Voilà, donc tout le monde est invité à venir à Charles Michel. Maintenant, notre émission tire à sa fin, malheureusement, parce que ça fait presque une heure. Donc, il va être temps de conclure. Un dernier mot, peut-être ?
Un dernier mot, ben, nous, tout ce que nous nous demanderons au public et à la France tout entière, c'est d'abord de nous soutenir sur notre lutte qui est une lutte de longue haleine. Et puis voilà, de nous rejoindre au 5961 rue Charles Michel, qui est juste derrière la gare SNCF de Saint-Denis. Franchement, pour qu'on puisse faire les choses ensemble et pour qu'on puisse gagner aussi. Parce que tout le monde sait actuellement, avec l'État et le gouvernement qui est en place, c'est pas du tout facile. Il faut négocier, batailler pour avoir gain de cause. On aimerait avoir plus de monde pour nous soutenir afin qu'on puisse quand même gagner notre combat.
Voilà, donc tout le monde là-bas, à Saint-Denis, c'est facile. Et en plus, c'est un endroit qui est très sympathique.
Tout à fait, oui.
Voilà, donc avant de vous dire au revoir, simplement, donc aujourd'hui, on n'aura pas le temps de présenter notre agenda habituel. Simplement, sera votée la directive retour au Parlement européen à Strasbourg au mois de juin. Il est temps de se mettre sur le site directivedelahonte.org ou sur le site de la CIMAD ou de RESF et de contacter son député européen pour que cette directive ne passe pas. Parce que si cette directive passe, entre autres, c'est 18 mois de rétention avec les familles et pas 30 jours comme c'est maintenant, et 5 ans d'interdiction du territoire européen pour toute personne qui serait partie non volontairement d'Europe. Voilà, donc je vous dis au revoir et au mois prochain sur Singulier au pluriel, sur Fréquence Paris pluriel 106.3. Eh bien, au revoir Meïté, au revoir Monsieur Traoré.
Merci.
Au revoir Demandé, au revoir Isabelle qui était à la fois au micro et à la technique. Et quant à moi, je vous dis à demain matin sur... À demain 15h sur RESF, sur Fréquence Paris Pluriel 106.3.